Écotable.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Il faut que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découverts, c'est la cuisine très engagée, c'est les personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute ! Aujourd'hui, je suis ravie de m'interroger sur une question plus politique que je ne l'avais appréhendée avant la lecture du livre de Nora Boisoni, « Quels sont les liens entre lutte des classes et notre assiette ?» En effet, les populations modestes et aisées ont un rapport différencié à l'alimentation. Comme le disait déjà Pierre Bourdieu, et tu le cites, Nora, dans ton livre, le goût, c'est le dégoût du goût des autres. Nos préférences alimentaires, mais aussi nos manières de table, sont une façon de montrer notre adhésion à tel ou tel groupe. Ainsi, en fonction de notre classe sociale, on semble être influencé, voire même conditionné ou cantonné à une façon de manger, une façon de concevoir la nourriture. Devenir végane, par exemple, sera accepté par une certaine bourgeoisie, mais méprisé comme pratique bobo par certaines classes populaires. Autre exemple, peut-être encore plus parlant, le jeûne. Celui-ci est valorisé par les classes aisées comme pratique saine, quand certaines catégories de la population n'ont pas le choix que de sauter des repas pour des raisons financières. Par ailleurs, l'alimentation est aussi une histoire de domination. Les plus pauvres sont souvent soumis à des injonctions culpabilisantes. Ils sont pointés du doigt lorsqu'ils mangent des produits transformés plutôt que des légumes qui sont soi-disant plus accessibles. Les plus riches auraient quant à eux un certain monopole du bon goût. Ces schémas de domination peuvent s'observer à de nombreux niveaux. La faible rémunération des agriculteurs par rapport aux marges des grands groupes agroalimentaires, l'appropriation des ressources des pays en développement par les pays occidentaux, et j'en passe. Ce sont ces schémas qu'il s'agit d'étudier dans ce podcast. En quoi les classes sociales sont définies par ce qu'elles mangent ? La lutte des classes passe-t-elle par l'assiette ? À l'inverse, la réconciliation entre les classes est-elle possible via l'alimentation ? Comment faire de l'alimentation une source d'émancipation ? Ce sont toutes ces questions que je vais aujourd'hui poser à Nora Boisoni. Nora est journaliste indépendante, écrivaine et traductrice. Vous avez peut-être entendu parler de ses essais « Féminisme » et « Sexisme ».
Sexisme.
Sexisme, oh là là, mais c'est vraiment impossible. Elle revient en force avec un troisième livre qui ne mâche pas ses mots, « Manger les riches, la lutte des classes passe par l'assiette ». Ici, il s'agit de démontrer que l'alimentation peut être un outil de transformation sociale puissant. Bonjour Nora.
Bonjour.
Est-ce que tu peux déjà te présenter ? Alors, je rappelle que tu es déjà passée dans ce podcast en 2020, dans l'épisode 26 que je vous invite à écouter, qui s'appelait « Où en est-on du MeToo de la restauration ?» Mais pour ceux qui ne l'ont pas écouté, qui es-tu ?
Eh bien, on en est toujours loin du milieu de la restauration en plus, oui. Hein, mais on lâche pas l'affaire. Eh bien, comme tu le disais, je suis journaliste indépendante depuis longtemps, je suis écrivaine et traductrice, et donc j'ai écrit trois livres déjà que tu as cités, « Féminisme, sexisme » et « Manger les riches » chez Nourriture Fut. « Manger les riches » qui est sorti au début du mois d'octobre.
Et tu traduis quoi ?
Je traduis de l'anglais au français, principalement de la bande dessinée, mais aussi ce qu'on appelle les documentaires jeunesse en édition pour Gallimard Jeunesse, des guides. J'ai traduit un guide qui s'appelle Queer et Fière pour les filles queer, les jeunes filles queer. Et j'ai traduit un bouquin qui s'appelle Le consentement, on en parle aussi à destination des préados et des ados.
Ah, cool. Qu'est-ce qui t'a motivée à écrire ton dernier livre, du coup, Manger les riches ? À qui il s'adresse et qui veux-tu faire réagir en la lecture de ce livre ?
Tout le monde. Le plus grand nombre. On m'a déjà plusieurs fois posé la question depuis le début de la promo de ce livre. On m'a dit « Ah, mais vous pensez pas que vous allez prêcher que les convaincus avec un titre pareil ?» Je me suis pas posé la question en écrivant ce livre, en fait, parce que prêcher les convaincus, ça veut pas dire grand-chose pour moi. C'est-à-dire quand on est militant ou militante ou activiste ou qu'on est journaliste, on prêche pas forcément. Et puis on est là pour s'adresser au plus grand nombre, justement, pour... découvrir, faire découvrir, apprendre, faire apprendre. Enfin, pour moi, c'est une question de savoir et de pouvoir et de restituer des choses que moi, j'apprends en écrivant mes livres. Donc, j'avais envie de comprendre, moi, comment fonctionne le système alimentaire, comment fonctionne le goût comme tu le disais dans l'intro, le bon goût avec des guillemets, le mauvais goût avec des guillemets, qui le décide, pourquoi manger tel aliment quand on a de l'argent et manger le même aliment quand on n'en a pas et vu, perçu de manière différente. Et puis de débroussailler un peu les mythes, les stéréotypes, les clichés qu'il y a autour de l'alimentation, que ce soit le système ou que ce soit les habitudes de consommation, donc avec cette phrase qui me rend complètement dingue aujourd'hui, qui est « mais oui, ça coûte pas très cher de bien manger, ça coûte pas si cher de bien manger. C'est quoi bien manger, c'est quoi cher, c'est quoi le coût, de quel coût on parle ?»
Mais du coup, c'est quoi, qu'est-ce qui t'a eu, hein, quelque chose qui t'a dit « ok, je vais écrire là-dessus », ça a été quoi le déclencheur de
J'ai pas eu de... Bah, je pense que la colère déjà, ouais. Je suis très en colère.
On sent.
Ouais, je suis très en colère, je viens d'une famille ouvrière, où l'argent a toujours été un problème et il l'est toujours. Et donc la bouffe, c'était hors de question de gâcher, il fallait faire attention. On n'avait pas les moyens de manger comme on aurait voulu manger si on avait plus d'argent. Donc il y a une colère, il y a quelque chose de politique qui se joue dès l'enfance quand on grandit dans une famille où il n'y a pas beaucoup de moyens. Et puis on le sent, hein, on nous fait comprendre qu'on est pauvres, les autres. On se sent marginalisé aussi. Et puis, non, au fur et à mesure, la colère monte, elle se politise, elle se transforme en ce qu'on peut en faire. Moi, j'ai la chance de pouvoir écrire des livres, de pouvoir écrire des articles, de pouvoir être ici pour en parler dans un podcast super. Et puis, j'ai parlé du genre. Et puis, je me suis dit, j'ai un peu fait le tour, quoi, entre guillemets. Je dis pas qu'il n'y a plus rien à dire, hein, mais moi, en tout cas, j'avais fait le tour avec 2 bouquins sur le genre et l'alimentation. Et en fait, Nourriture Fu, Anne et Antonin, mes éditeuristes, m'ont proposé d'écrire un livre qui n'était pas du tout Manger les riches. Et je leur ai dit, ça me botte pas trop, c'est pas trop mon truc. Mais ça parlait un peu d'argent quand même. Et donc j'aurais dit, en revanche, votre idée me donne une idée. Viens, on fait un bouquin qui parle d'argent, qui parle de classe sociale et qui parle de l'alimentation au sens très, 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 très large. Moi, je voulais qu'on fasse macro, micro.
Mais donc, ça veut dire que tu t'étais rendu compte de ça, que tu l'avais déjà théorisé, toi, cette lutte des classes sociales
par
l'assiette?
Mais tout le monde, enfin, je veux dire, pour moi, les gens qui n'ont pas théorisé, c'est des gens qui sont complètement perchés. Enfin, c'est les 1%, quoi.
Oui, mais on se rend pas... Je trouve qu'avant la lecture de ton livre, on se rend pas compte d'à quel point.
Oui, à quel point, voilà. C'est-à-dire que moi, je voulais qu'on se rende compte à quel point. C'est ce que tu dis. À quel point c'est mortifère, à quel point on est dans le mur, à quel point c'est une bombe à retardement, à quel point ça va péter, ça a déjà pété, c'est en train de péter. Je voulais qu'on se rende compte de la manière dont... Mais comme pour le genre, tout est imbriqué, c'est un système. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans mon travail, c'est montrer l'ampleur systémique, montrer le système des choses, que les briques sont vraiment... Mmh. Elles sont pas juste empilées, il suffirait de donner un coup de pied dedans. C'est imbriqué, en fait. C'est au point où on se dit, comme pour le capitalisme, comment on fait autrement? Est-ce que c'est même possible? Moi, bien sûr que c'est possible. Mais on se dit, c'est pas possible, il faudrait tout détricoter. Bah ouais, il faudrait tout détricoter.
Ok, on va essayer de détricoter justement et de comprendre en tout cas tous ces liens entre alimentation et classe sociale. Si tu devais expliquer rapidement à nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent, justement les liens entre classe sociale et alimentation.
Ah bah, faut lire le livre. c'est compliqué de décrire ça, d'en parler comme ça, parce qu'il y a tellement de... Justement, j'essaie de montrer à quel point c'est... À quel point tout est lié, à quel point le... Alors moi, j'aime pas le terme « pouvoir d'achat », parce que j'aime pas l'idée qu'avec l'argent qui nous reste à vivre, je préfère le terme « reste à vivre », ce qui est plutôt le terme de sociologie d'ailleurs, aussi d'économie, ce qui vous reste, vous avez payé des charges fixes, votre loyer, les factures, etc., l'essence, la voiture, les assurances, les prêts. Pouvoir d'achat, pour moi, ça renvoie forcément à un acte d'acheter, donc pouvoir d'achat, c'est ce que Monsieur Leclerc, Monsieur Lidl et Monsieur Franprix viennent vous dire sur le plateau télé. Bon, et soi-disant, ils le défendent, votre pouvoir d'achat. Non, ils défendent leurs bénéfices. La classe sociale, évidemment, vous n'habitez pas dans le même endroit, vous n'avez pas forcément les mêmes magasins, vous n'avez pas les mêmes prix, vous n'avez pas le même loyer, vous n'avez pas le même transport en commun ou pas, donc vous avez déjà un reste à vivre différent. Moi, j'habite en plein cœur du 11e à Paris, je suis locataire, j'ai un loyer très élevé, mais j'ai pas d'enfants, j'ai pas de voiture, j'ai pas de maladie chronique. J'ai pléthore de magasins pour acheter à manger, tout ce que je veux autour, je peux tout trouver vraiment en bas de chez moi. Mais si j'habitais dans un endroit très rural et que j'étais handicapée moteur et que j'avais 3 enfants à charge, en famille monoparentale, de l'essence parce que il n'y a pas de transport en commun là où j'habite, et ben mes courses seraient pas les mêmes. Je mettrais pas autant de temps à faire les courses, j'achèterais pas du tout les mêmes choses. déjà. Donc sur en termes d'argent, alors on a aussi par exemple bah encore une fois famille monoparentale, mettons, souvent ce sont les mères d'ailleurs, c'est la grande majorité. Bon, quand on me dit oui, mais d'accord, elles pourraient faire mieux à manger à leurs enfants, regarde ce qu'ils mangent pas, mais quand vous enchaînez deux boulots différents dont un qui est en horaire de nuit. Comment vous faites pour nourrir vos enfants qui sont en bas âge? Il faut quelque chose qui soit froid par exemple. Encore un exemple, et puis quand on habite en hôtel social, qu'est-ce qu'on a comme matériel pour cuisiner? Rien. En fait, on n'a rien. C'est-à-dire que je propose à tous les gens qui nous font croire que c'est facile de cuisiner et pas cher, d'aller vivre une semaine en hôtel social pour me dire à quel point c'était super facile de faire un curry végétarien, puis ça prend pas trop de temps, puis c'est simple, il suffit de couper des trucs et de machin. Bon, voilà. Pareil, l'aide alimentaire. Il y a des fantasmes autour de l'aide alimentaire. Les gens pensent que l'aide alimentaire, ceux qui n'en bénéficient pas, pensent que c'est un comme un supermarché, mais avec des prix plus bas. Comme si on pouvait choisir ce qu'on mange. Et puis il y a ce dont je parle en mode micro, donc à la fin de mon livre, tout ce qui est plutôt sociologie, donc le bon goût, le mauvais goût. Donc l'exemple que je donne souvent, c'est par exemple au Monde, il y a un chroniqueur, il s'appelle le chroniqueur du sucré, je sais plus quoi, il s'appelle Gilbert Pitel, et vous voyez ses articles tous les mois, il va tester genre les 25 mais les galettes pour trouver les meilleures galettes, il va faire les 25 choux à la crème, les 25 tartes au chocolat, etc. Bon, c'est son métier, grand bien lui fasse, j'ai rien contre ce monsieur, je le connais pas. Lui, il va manger, il va goûter 25 galettes des rois pour trouver la meilleure. Si vous prenez quelqu'un d'une classe populaire qui va manger 25 galettes des rois pour trouver la meilleure, je ne suis pas sûre qu'il fasse des articles dans Le Monde et je ne suis pas sûre qu'on lui dise « Oh, c'est super !» et qu'on parle de lui en disant des choses très positives. Pourquoi est-ce que, quand on est critique et qu'on va chercher le meilleur burger, Smash Burger de Paris, on va en manger 50, on trouve ça super, parce qu'il y a une espèce de volonté en fait esthétique qui transcenderait la simple consommation. Il y aurait une recherche de l'esthétisme, une recherche de la qualité. Alors que quand quelqu'un d'une classe populaire va manger 25 burgers, on va lui dire « Ah, ben, ils savent pas se nourrir les pauvres ». C'est incroyable quand même, c'est mauvais pour leur santé. Ils devraient le savoir que c'est mauvais pour leur santé de manger autant de burgers ou de boire autant d'alcool. Mais moi, si jamais sur Instagram, je dis que ce week-end, avec des amis, on a ouvert 5 quilles de vin nature, on va me dire « Oh, c'est génial, c'était quoi ?» Vous allez au PMU du coin, là où j'ai grandi, dans l'Oise, en Picardie, vous prenez un ouvrier qui dit qu'il a ouvert avec ses amis 4 bouteilles de vin le week-end, je pense que c'est pas perçu de la même manière.
On va rentrer dans le détail de tout ce que tu viens de dire. Ma première question, elle va concerner celui du goût des consommateurs. Là, je voudrais qu'on essaye de comprendre s'il y a vraiment un rapport différencié entre l'alimentation et les classes sociales. Si on est conditionné par notre classe sociale par rapport à ce qu'on aime et par rapport à ce qu'on mange. Est-ce qu'il y a véritablement un goût des consommateurs, un goût propre à chaque classe sociale?
Alors, de manière innée, non. Tout comme il n'y a pas de goût genré. Comme je l'expliquais dans mon deuxième livre, on ne naît pas, quand on est femme, par exemple, avec un goût pour les compotes et le gazpacho, et quand on est homme, pour la sauce béarnaise et les gros steaks, quoi. Bon, évidemment, c'est pareil pour tout le monde. On n'a pas de goût inné. Il y a des goûts... c'est un consensus scientifique, en plus. Hein, c'est pas moi qui dis que... Donc, il y a un goût qui est le goût sucré, qui plaît aux nourrissons. Et il y a un goût qui est le goût amer qui déplaît aux nourrissons. Alors, on ne sait toujours pas pourquoi exactement. Peut-être que l'amertume, c'est parce que beaucoup de choses dans la nature qui sont mauvaises pour nous sont amères. Donc, peut-être que ce serait une espèce de système d'alarme dans le cerveau qui dit amer égale mauvais. Donc, le goût amer est peut-être un peu moins aimé par tout le monde. Encore que c'est quand on grandit, en fait, qu'on apprend les goûts. Donc, moi, par exemple, il y a des choses que je détestais enfant, genre la betterave à la cantine. Parce que c'était cuit n'importe comment, et que j'ai découvert la betterave à l'âge adulte, et j'adore la betterave maintenant. Ma mère ne cuisinait pas de betterave parce qu'elle n'aimait pas ça. Bon, voilà. Alors qu'elle vient, ma mère vient d'une famille de paysans en Bretagne qui cuisinait que ce qu'il y avait dans le potager et dans les champs, donc pas énormément de choses, dans un tout petit bled dans les Côtes d'Armor. Donc ma mère, elle cuisinait ce qu'elle, elle aimait et ce qu'elle savait faire. Donc moi, j'ai grandi en mangeant ce que ma mère savait cuisiner et ce qu'elle aimait. Donc, pas beaucoup d'aventures, pas beaucoup de curiosité, parce que on peut pas gâcher. Donc pareil, hein, quand on dit oui, mais il faut essayer plein de choses, bah oui, mais si les enfants ils aiment pas et que vous aimez pas, vous allez mettre à la poubelle, vous avez pas les moyens de gâcher. Et puis pas envie forcément de cuisiner quelque chose qu'on sait pas quoi, et ça prend du temps, il y a pas de tuto YouTube pour tout, puis on n'a pas forcément le temps de le faire. Donc il y a pas un goût de riche par exemple et un goût de pauvre. Et ce que Pierre Bourdieu, le sociologue, explique dans la distinction, c'est qu'il y a pas de goût inné de pauvre entre guillemets ou de riche entre guillemets, mais que il y a des goûts de pauvre et des goûts de riche dans ce que nous on perçoit comme étant des goûts de pauvre et des goûts de riche. Par exemple, Si je vous demande de citer des musiques de Rich, tout le monde va répondre la musique classique, voire le jazz. Le jazz n'est pas une musique de riche à la base quand même, mais aujourd'hui c'est perçu comme des choses plutôt élitistes. Si je vous demande de citer des émissions que regardent les classes populaires, vous n'allez pas me dire la grande librairie. Voilà, vous allez me dire « touche pas à mon poste », etc. Ou de la télé-réalité. Bon, c'est autant du classisme et du snobisme que ça peut être une réalité si on regarde les chiffres, évidemment. Donc ça ne veut pas dire que c'est inné, mais c'est des choses qui sont déterminées par l'endroit où on a grandi, et je dis l'endroit parce que c'est au sens large, pour la bouffe comme pour les goûts culturels, on va dire, c'est géographique, c'est ultra local d'ailleurs, hein, dans une même ville par exemple. Il y a des quartiers bourgeois à Paris, il y a des quartiers populaires à Paris, il n'y a pas les mêmes commerces dans ces deux quartiers-là. On n'est pas exposé à la même culture, et je parle de culture en général, littéraire, audiovisuelle, médiatique, culinaire, etc. Mode. Donc nos goûts sont déterminés par notre classe sociale, pas par notre naissance, mais par là où on a grandi et ce à quoi on a été exposé.
Mais comme tu dis, il y a quand même une partie d'inné. Alors tu l'as dit avec le sucré pour les nourrissons, il me semble que le gras aussi fait des choses dans le cerveau qui fait qu'on y retourne, et la junk food particulièrement. Il me semble que tout le monde, le McDo fait peut-être un des rares restaurants qui réunit toutes les classes sociales.
En fait, même d'autres, prenez des frites avec de la mayonnaise, c'est la même chose. En fait, c'est ce qu'on appelle le bliss point. Donc le point d'extase, c'est un savant mélange, un savant dosage de sucre, de sel et de gras qui fait que notre cerveau il est en plein orgasme, clairement. C'est pour ça que oui, les burgers, les frites, la junk food comme ça, même un kebab par exemple, en tout cas quelque chose qui est sucré, salé et gras.
Ça réunit tout le monde.
Ça réunit tout le monde, c'est sûr. Tout le monde. Après, on dit tout le monde. Ici, on est à Paris par exemple, on dit tout le monde. Mais dans des pays où il n'y a pas de junk food, où il n'y a pas de burger, on ne mange pas des frites mayo, le cerveau ne fonctionne pas de la même manière. Évidemment, notre cerveau se construit avec ce qu'on peut manger, ce qui est disponible chez nous. Par exemple, il y a des textures en France qui sont oubliées, tout ce qui est gélatineux. On n'en mange plus. Oui, je vois que tu frissonnes.
J'en ai parlé ce midi, justement, des œufs en gelée.
Voilà, des œufs en gelée, des terrines. Et tout ce qui est gélatineux, la gelée, en France, il n'y en a quasiment plus, d'ailleurs. J'ai eu la chance d'aller en voyage presse il y a quelques années à Singapour, avec d'autres journalistes bouffe. Et le gluant, le gélatineux, on le retrouve dans des plats à Singapour, dans des plats en Asie, en fait, aussi. Alors, je ne connais pas les cuisines du continent africain, mais il y a aussi des plats, les gombos par exemple. Les gombos, il y a quelque chose qu'on trouve dans plusieurs continents et qui, moi, je n'y arrive pas. J'ai testé dans plusieurs manières de cuisiner des gombos et je n'y arrive pas. Enfin, ce côté gélatineux, ce n'est pas pour moi. Mais des gens qui ont grandi avec ça, il n'y a aucun problème. Tout comme quand on grandit dans des pays où on mange très pimenté très tôt. Vous allez au Mexique, moi les gamins de 3 ans ou 4 ans au Mexique, ils mangent des choses pimentées que moi je pourrais jamais manger, même si je m'entraînais en fait. Donc le goût, il est entraîné. Voilà, on entraîne son goût, donc on entraîne son cerveau, on entraîne son corps. Donc au-delà des goûts, on va dire sociaux, il y a les goûts physiologiques, on va dire ce qu'on aime, ce qu'on apprécie plus. Je donne beaucoup l'exemple aussi, puisque c'est l'exemple que je donne pour parler des goûts innés qui n'existent pas dans mon deuxième livre. En France, il y a des chercheurs et chercheuses qui ont fait les tests sur des nourrissons et sur des femmes enceintes, juste avant. Donc, des femmes enceintes, il y a un groupe, on a dit à ces femmes enceintes, vous pouvez manger beaucoup de choses qui sont anisées, parce que l'anis passe dans le liquide amniotique. C'est un goût très, très fort, l'anis. Et un autre groupe de femmes, on leur a dit ne manger rien d'anisé. Puis, on a fait un test quand les bébés sont nés. On a pris les bébés sortis du ventre des mamans qui avaient mangé beaucoup d'anis et des mamans qui n'en avaient pas mangé. Et on a mis un linge parfumé à l'anis sur le visage des bébés. Et bien, ceux qui avaient été exposés à l'anis dans le ventre de leur mère, donc in utero, ne détournaient pas la tête. Et ceux qui n'avaient pas été exposés détournaient la tête. Donc, on voit, alors, ça ne prouve rien, on va pas dire 100% que, mais en tout cas, cette expérience montre que des goûts très forts comme l'anis, les enfants s'en rappellent, les bébés s'en rappellent, sauf qu'à partir du moment où vous naissez, vos goûts se construisent, se reconstruisent. Des bébés qui sont nés avec une appétence pour l'anis parce que pendant 9 mois dans le ventre de leur mère, il y a eu de l'anis, ça ne veut pas dire que ce sera des adultes qui vont aimer l'anis. Mais si vous vivez dans une région, dans le sud de la France par exemple, où il y a de l'anis, où il y a du Ricard, du pastis ou bien des pâtisseries anisées, vous aurez forcément plus l'habitude, en tout cas de l'anis, que moi qui ai grandi dans l'Oise, en Picardie.
Mais est-ce qu'on peut, en tout cas, vraiment faire des tendances entre classe sociale et un type d'alimentation. Tu vois, je, en lisant ton livre, je me suis dit, OK, sur la classe sociale aisée, des riches, j'ai l'impression que quand même, bah, en fait, suivant les riches, tu as des gens radicalement différents. Tu en as qui vont manger vraiment que des produits transformés parce que pour eux, l'alimentation, c'est limite une question qu'il ne faut pas se poser et donc on mange que des plats transformés. Et à l'inverse, tu as ceux qui vont vouloir manger des produits bruts, nobles, aller dans des grands restaurants gastronomiques, etc.
Bah, c'est une question de statut. Je parle dans le bouquin d'aliments qui n'ont pas eu le même statut à travers les époques. Par exemple, le caviar n'a pas du tout été un aliment luxueux dès ses débuts. C'est quand même des œufs de poisson. C'était des déchets, hein. Les œufs d'animaux, c'était des déchets. On donnait le caviar aux cochons. Voilà. C'est quand il y a eu une émigration russe aristocrate qui est venue en France, qui, eux, là-bas, en Russie, le caviar était un mets délicat considéré comme un symbole statutaire. Ils ont importé, en fait, cette symbolique-là. Le homard, c'est la même chose. Le homard était donné aux prisonniers dans le Maine parce qu'il y avait du homard plein l'océan Atlantique, en fait, il y a très longtemps, en Amérique du Nord. On a plusieurs aliments comme ça qui ont changé de statut, qui sont devenus des aliments de luxe, qui sont devenus rares aussi. Hein. Le caviar, c'est parce que les œufs d'esturgeon, à une époque, c'était très rare. Aujourd'hui, on les élève, etc. Le homard breton est rare, ce qui fait aussi sa cherté. Si le homard était moins cher, ce ne serait pas un objet de luxe. C'est aussi la rareté. Et on le voit dans la mode aussi, évidemment. On le voit dans à peu près tout. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Et c'est pour ça que Bourdieu, quand il écrit la distinction... il n'est pas binaire non plus, mais il y a quelque chose d'un, bah, assez nuancé. Donc, d'autres sociologues sont arrivés après en disant aujourd'hui, il y a une porosité de la culture, notamment. Donc, il y a moins des goûts réservés aux riches qu'avant, ou réservés aux pauvres. Donc, je mets des guillemets, évidemment, encore une fois, entre riches et pauvres, hein, qu'avant, puisqu'il y a une porosité aujourd'hui. Évidemment, c'est culturel de se dire que il y a certaines catégories. Tu vois, tu parlais du véganisme au début, devenir végane. Et je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que devenir végane, c'est pas forcément bien vu par des classes privilégiées. Parce que la viande reste un objet statutaire important et un symbole d'opulence, d'abondance et de richesse.
Mais c'est parce qu'on en a et qu'on a la possibilité d'en acheter qu'on peut se permettre aussi de pas en acheter, non?
Oui et non. En fait, par exemple, moi, quand j'ai arrêté de manger de la viande, dans ma famille ouvrière, mes parents ont vu ça comme une espèce de trahison sociale. Ils m'appelaient la bourgeoise, la parisienne. J'avais 14 ans. Hein. Mmh. Bon. Dans d'autres familles, je connais des gens qui viennent de familles très aisées et qui ont arrêté la viande à peu près à cet âge-là ou un peu plus tard, c'est la même chose. Alors, ils sont pas traités de bourgeois parce qu'ils sont déjà bourgeois ou ils sont déjà parisiens ou parisiennes. Mais en tout cas, on dit c'est une trahison de classe. Mmh. Qu'est-ce que c'est ton truc d'arrêter de manger de la viande? Là, enfin, on t'a toujours donné les meilleurs produits. Il y a ça qui, on t'a toujours donné, t'as mangé le meilleur poulet, t'as mangé le meilleur bœuf, tu manges des charcuteries italiennes incroyables. Et c'est quoi ton délire d'arrêter? Donc, en fait, c'est parce que la viande, et c'est pareil, la viande n'a pas toujours été un statut, un symbole de statut à ce point-là. Aujourd'hui, c'est le légume qui est devenu noble. Manger des légumes, et de toute façon, là, pour le coup, si on veut parler d'un aliment qui est un symbole statutaire, qu'il est devenu aujourd'hui, c'est le légume.
Donc c'est cuisiner, en fait. Parce que c'est pas manger du légume picard, si.
Bah non, c'est plutôt aller au resto. Au resto, okay. Là, c'est quand même le truc ultime, on cuisine pour vous. Mais le légume, oui, le légume cuisiné, c'est vrai. Vu que les fruits et légumes ont pris 40% d'inflation en 10 ans, ce qui est 3 fois plus que le niveau général des prix.
Et la viande.
Le fruit et légumes, j'ai pas le chiffre de la viande en tête. Mais en tout cas, aujourd'hui, le légume est le truc le moins accessible aux classes populaires. Donc,
tu veux dire que c'est plus accessible aux classes populaires d'acheter une côte de bœuf que...
Alors, la côte de bœuf, je sais pas, parce qu'avec l'inflation, c'est compliqué. Mais acheter de la viande transformée, par exemple, c'est plus facile. Et c'est pas qu'une question de coût, c'est une question de transformation. Vous allez pas manger une carotte crue, quoi. Vous allez pouvoir manger du jambon. Vous ouvrez une barquette de jambon, vous mangez du jambon. Mais vous achetez une carotte, il faut la préparer, la carotte. Ne serait-ce que la râper, par exemple. Mmh. C'est quand même une préparation. C'est quand même du temps. C'est quand même, il faut avoir les instruments, le matériel. Donc, en tout cas, sur les goûts, aujourd'hui, on a des goûts qui sont associés à certaines classes. Par exemple, je parle des émeutes du Nutella. Ouais. Je sais pas si, pour les auditeuristes qui s'en souviendraient peut-être pas, les émeutes du Nutella, c'était... J'ai un trou, 2008. Il y a eu des supermarchés qui ont vendu le Nutella à des prix microscopiques
C'est même, attends, c'est bien après, je pense. Bon, peu importe, mais je viens de le lire dans ton livre, mais je crois que c'est, c'est 2018.
Ouais. Ah oui, ça, j'arrive pour que 2008, j'étais 2018. À France Télé, en plus, j'étais pas français en 2008, n'importe quoi.
En 2018.
Je le reprends, alors. Les émules d'Undella, pour celles et ceux qui s'en souviennent pas, 2018, il y a eu un supermarché qui a vendu le Nutella à prix cassé et on a assisté, via des gens qui filmaient ou via des télés qui étaient sur place, à donc ce qui a été appelé des émeutes, donc des gens qui se ruaient sur ces pots de Nutella. J'en parle dans le livre, ça a donné lieu à des remarques d'une violence de classe inouïe, et d'une violence tout court, où des gens se permettaient de commenter en disant « Ah bah les pauvres, ils savent pas ce qu'ils mangent, ils vont manger de l'huile de palme, ah bah ça se ruerait pas comme ça sur des légumes quoi, waouh !» Et en fait, c'est vraiment une remarque qui cristallise une violence qui n'est pas qu'une violence de classe, parce que tous les gens qui ont émis ces critiques ne sont pas forcément des gens qui ont beaucoup d'argent. Hein. Mais de toute façon, il faut toujours qu'on trouve plus pauvre que soi, ou plus beauf que soi, ou plus ignorant que soi, pour se sentir mieux dans sa peau apparemment, se sentir supérieur. Et en fait, c'était l'idée que les pauvres, parce que j'ai encore, je mets des guillemets, mais en tout cas les classes populaires qui allaient acheter ce Nutella, personne ne s'est posé la question de pourquoi ces gens étaient prêts à en venir presque aux mains pour un pot de Nutella à prix cassé. Parce que c'est une question de plaisir, en fait. Et moi, j'en ai un peu marre qu'on aborde la nourriture sans arrêt, en ce qui concerne les classes populaires, d'un point de vue d'équilibre, de nutrition et de manger sain. Et c'est pour ça que j'ai écrit dans le livre que pour moi, la gourmandise aujourd'hui, on a l'impression que c'est une prérogative des classes dominantes, quoi. Que les pauvres, les classes populaires, les personnes précaires n'auraient pas le droit à la gourmandise et au plaisir, si ce plaisir n'est pas validé par les classes dominantes ou par des arbitres, un, du bon goût, deux, de la nutrition. Quand on se bat pour du Nutella, pour moi, la violence, c'est pas ce qui se passe là-bas, c'est la raison pour laquelle on se bat pour du Nutella. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont peut-être pas d'autre plaisir dans la vie, qui ne peuvent pas offrir à leurs enfants autre chose que du Nutella. Et quand je dis autre chose, ça peut être une sortie, au cinéma, des vacances, une console de jeu, des nouvelles baskets, j'en sais rien, des bouquins, que sais-je, de la culture, des loisirs, une sortie au restaurant, je ne sais pas, un parc d'attractions. Et que le plaisir le plus accessible aujourd'hui dans la vie, pour tout le monde, c'est la bouffe. C'est-à-dire que même quand on n'a pas d'argent, eh ben, on se dit « Ok, j'ai envie de me faire plaisir, je vais aller acheter une barre chocolatée à 1,50€. » Je vais aller acheter une tablette de chocolat à 2€. Je vais acheter des Kinder Surprise à mes enfants. Parce que bah, je leur fais plaisir comme ça, comme je peux. Et je me sens un bon parent en le faisant. Parce que je ne fais que dire non à mes enfants, sinon. Et donc, cette violence-là, il y a une violence double. C'est-à-dire qu'il y a la violence de se dire... Il y a des gens qui, pour ce plaisir-là, n'ont tellement pas les moyens. Et ça reste un peu un luxe, une Nutella. Hein, ça ne coûte pas non plus 20 centimes, une Nutella. Qui vont... Ils en sont à quasiment se battre pour des pots de Nutella. Mais il y a aussi, et ça personne n'en parle, de la viande du supermarché. Parce que ça, personne n'est allé poser la question. Vendre à prix coûtant, vendre à perte, qu'est-ce que ça veut dire pour la production mondiale, pour la façon dont on pense un système alimentaire mondial. Donc, il y a des aliments, et comme je dis dans le bouquin, s'il y avait des ventes à la maison du caviar à prix cassé, mais je suis certaine que vous verriez des riches faire exactement la même chose que pour ce qu'on a appelé les émeutes du caviar. Et je suis pas sûre que autant de gens aient des remarques aussi classistes. Mais alors, surtout, on se foutrait de la gueule gentiment des riches. Et ça, on aurait plus le droit. Mais personne ne dirait, ah bah regarde, est-ce que des œufs de poisson, c'est si nutritif? C'est plein de sodium. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, les riches, à manger que du caviar? C'est un traitement différent. C'est une perception différente parce que notre société, elle est fondamentalement inégalitaire et il y a une hiérarchie des classes, évidemment.
Dans la perception, j'entends complètement ce que tu dis. J'ai l'impression que dans notre rapport à l'alimentation et notamment notre rapport à la cuisine, en revanche, c'est un peu moins dichotomique dans le sens où désormais, que ça soit les classes privilégiées ou les autres, t'en as qui cuisinent, t'en as qui cuisinent pas. Et ça, finalement, c'est relativement pour eux. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais il y a l'idée toujours que les classes dominantes, elles pourraient cuisiner. Tu vois? C'est-à-dire qu'elles peuvent. Elles ont. En fait, on voit
elles
souvent.
Elles font le choix, quoi.
Exactement. De toute façon, tout est une question de choix. Il y a un choix qui est fait. Elles pourraient très bien cuisiner tous les jours, mais non, elles vont au restaurant ou elles vont chez le traiteur. Moi, j'ai découvert le truc d'aller chez le traiteur quand je suis arrivée à Paris et je voyais des gens riches. J'étais là, mais c'est quoi le principe du... Pour moi, un traiteur, c'était que pour les mariages, les communions, les baptêmes et tout. J'ai découvert que des gens faisaient quasiment jamais à manger et descendaient chez le traiteur. Ça, c'est le principe de... très privilégié. Le restaurant, c'est une pratique très privilégiée aussi. Hein. Donc, il y a... je parle de la famille Kardashian-Jenner dans le livre. Je donne un exemple pour moi très concret et très parlant. Quand vous avez une milliardaire qui est dans une autre réalité, donc c'est Keeping Up with the Kardashians, donc sur la famille Kardashian-Jenner, et cette jeune femme hein, qui est vingtenaire, qui ne sait pas couper un concombre. Parce qu'à la maison, elle a toujours eu un chef, ou une chef, je crois que c'est un homme, pour lui faire à manger. C'est une famille où on voit parfois la mère cuisiner de temps en temps, mais bon, vite fait. Mais en fait, c'est quand ils ont envie. Mais c'est des gens qui ont quelqu'un tous les jours pour leur faire à manger à domicile. Donc, cette jeune femme-là, on se moque d'elle parce que ne pas savoir couper en rondelle un concombre à 20 ans passés, c'est franchement, je pense que c'est légitime de pouvoir lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Tu ne sais rien faire de tes 10 doigts, en fait, clairement. Mais c'est valorisant pour elle puisque ça montre qu'elle n'a jamais eu besoin de le faire. Donc, on se fout de sa gueule. Et je pense qu'on a raison de se moquer. Et on se moque aussi du fait que nous, on n'a pas eu le choix. En se moquant d'elle, on se dit, mais nous, on n'a pas de chef qui font à manger. Et puis nous, évidemment qu'on sait couper des carottes, des concombres, on sait éplucher des patates, quoi. Enfin, ça me paraît logique, parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Et puis surtout, mais pour moi, quelle tristesse de ne pas savoir se faire à manger. Quelle tristesse de ne pas savoir couper un concombre, parce qu'on est au-delà de ça. Mais donc, évidemment, la cuisine, elle est valorisée et valorisante, parce que à travers la cuisine, il y a l'idée d'être vertueux. Pour moi, tout est une question aussi de vertu morale, de ce qu'on met, là où on place la vertu morale. Et les gens, les classes dominantes, elles ont souvent, on voit souvent dans les magazines ou dans les émissions de télé, on voit des gens qui ont des cuisines gigantesques et qui ne s'en servent jamais. Et d'ailleurs, ils le disent. Oh là là, oui, on n'en s'en sert jamais. Et t'es là, waouh! Quand t'as des gens qui cuisinent dans des hôtels sociaux, qui cuisinent, qui n'ont pas de cuisine, hein, tout simplement, qui ont des cuisines collectives, etc., et que t'as des gens qui ont l'équivalent de mon appart, mais c'est leur cuisine, en fait, et qui n'y mettent jamais les pieds, oui, mais la cuisine, l'endroit, est aussi statutairement parlante, en fait. Une très belle cuisine, avec des plans de travail, un îlot central, deux fours, donc des trucs de chef. Hein. Clairement, c'est des gens qui, en plus, ne se servent pas de leur cuisine, mais ont des cuisines qui sont des cuisines professionnelles, souvent avec des pianos incroyables, enfin, des frigos délirants, enfin voilà. Donc, ça reste un objet statutaire aussi. Ça reste un endroit où il faut montrer qu'on sait ce qui est le bon goût, on sait ce qui est validé par les classes dominantes qui sont elles-mêmes les arbitres de tout ça. Donc, évidemment, le choix est de faire la cuisine. Pouvoir aller au resto, c'est faire un choix. Et ne pas pouvoir cuisiner parce qu'on n'a pas le matériel, les connaissances, c'est pas un choix.
Tu parles dans ton livre de capital culinaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça intervient dans le cadre de la lutte des classes ?
Eh ben, la capital culinaire, c'est une forme de capital culturel. C'est des connaissances qui sont valorisées et valorisantes auprès donc des classes dominantes et qui sont les arbitres de ce qui est bien, pas bien, valorisé, pas valorisé. Par exemple, ne pas savoir ce qu'est de la bonite, c'est pas valorisant. Pouvoir donner les prénoms de Gauthier Millau, c'est valorisant. Pouvoir citer trois cépages blancs, c'est valorisant. Savoir ce que c'est qu'un pet-nat, c'est valorisant. C'est valorisant, je dis pas partout, en tout temps, etc. Mais aujourd'hui, c'est valorisant. C'est un capital culinaire valorisé.
Comme toute culture, finalement.
Comme toute culture. Non, parce que pouvoir me citer le prix de tous les menus McDo, c'est pas valorisant. Pourtant, ce sont des connaissances. Pouvoir me citer, les marques des vins les moins chers à Franprix, c'est pas valorisant. Alors que c'est un savoir. Pouvoir me dire, me faire une hiérarchie, pareil, du prix des pâtes au Monop, c'est pas valorisant. Au contraire, si tu me dis que tu sais ce que c'est la nouvelle gamme Barilla des pastas al bronzo, ça, c'est valorisant de savoir ce que c'est des pâtes al bronzo. C'est des pâtes qui sont un peu plus rugueuses pour retenir la sauce. Et elles sont vendues plus chères, donc on a premiumisé les pâtes. Mais, et ils n'ont rien inventé, évidemment. Mais il y a des choses valorisantes, des choses qui sont, mais on en revient tout à l'heure à ce que je disais sur quand un critique culinaire va manger 25 galettes des rois, c'est valorisant. Si quelqu'un au RSA fait la même chose, c'est pas valorisant pour elle. On va lui dire, mais elle se tue la santé, c'est pas possible, elle pourrait manger des carottes et des concombres à la place, quoi. Donc le capital culinaire, c'est ça, c'est une forme de capital culturel. Comme aujourd'hui, il y a des films qui sont plus valorisants que d'autres. Si vous avez vu toutes les Palmes d'Or, c'est valorisant. Si vous avez vu tous les Marvel, c'est beaucoup moins valorisant. Et je ne dis pas que ça ne l'est pas jamais dans n'importe quel endroit, évidemment. Mais je dis juste que les classes dominantes valorisent certains savoirs et d'autres non.
J'aimerais qu'on parle aussi de la question de comment on peut articuler ce que tu nous dis sur la lutte des classes avec les enjeux environnementaux qui sont posés aujourd'hui. Notamment, je vais te poser une question, est-ce que par exemple manger bio, c'est de l'apanage aujourd'hui des classes socialisées ?
Oui, en termes de prix dans les grandes villes par exemple, oui, on le voit bien avec l'inflation, le bio a reculé. Le bio a reculé parce que les gens ont moins les moyens. Les gens qui avaient les moyens et qui l'ont toujours, vont toujours acheter de la bio. Les gens qui se serraient la ceinture pour en acheter, ben, ont arrêté. Parce que, de toute façon, tout a augmenté. Même les marques distributeurs ont augmenté. Le problème, c'est que, en France, on a très peu conscience de la manière dont sont structurés les prix de ce qu'on achète. Notamment les produits bruts. Donc, les fruits et les légumes, par exemple. Et on a une méconnaissance, mais qui est entretenue, hein, évidemment, parce que c'est bien qu'on ne sache pas, comme ça on peut pas trop gueuler. Et je dis « on », je parle de nous, hein, pas, on va dire, de façon mainstream, nous, population, qui regardons le JT, qui lisons les journaux. Je ne parle pas des gens qui travaillent dans ces milieux-là, qui eux sont tout à fait au courant de comment est-ce qu'on les enfle dès qu'on peut. Donc je parle des gens qui travaillent la terre, hein, je parle des maraîchers, maraîchards, agriculteurs, agricultrices, éleveurs, éleveuses, paysans, paysannes. Ces gens-là, eux, on ne les voit jamais. Le seul moment où on voit des agriculteurs, agricultrices à la télévision, c'est soit parce qu'ils déversent du lisier devant une préfecture ou du lait quand il y avait les quotas de lait. Et ils sont souvent montrés comme des gens qui ne savent pas vraiment pourquoi ils gueulent et qui gueulent souvent. Donc, ils sont décrédibilisés déjà par une image médiatique. Et on ne les reçoit jamais dans des débats, jamais on les interview. Par exemple, là, quand on a eu tous les plateaux des chaînes d'infos en continu qui nous parlaient de l'inflation, on avait des gens qui parlaient du pouvoir d'achat. On avait les patrons des supermarchés, les patrons de la grande distribution. On n'a jamais eu un agriculteur qui est venu nous parler justement de ce que ça lui fait, lui, l'inflation, l'énergie, le coût du carton, le coût du papier, etc. Le coût des intrants. Et donc, on voit ces gens-là aussi dans L'amour est dans le pré. Voilà, c'est tout. C'est à peu près les seuls moments où on voit un agriculteur, L'amour est dans le pré, donc qui n'est pas une émission politique, hein, qui est une émission de télé-réalité de rencontre amoureuse, où il n'y a jamais de discours politique, évidemment. Ils ne sont pas là pour ça. Et je ne sais même pas s'il y en a, peut-être que c'est coupé. Mais il faut quand même rappeler qu'en France, il y a un suicide par jour d'agriculteurs, que c'est une profession qui est bien plus à risque en termes de suicide que la population générale. Et que c'est des gens qui sont souvent surendettés. Je conseille à tout le monde de lire un livre qui s'appelle « Silence dans les champs » de Nicolas Legendre, qui est journaliste, qui vient d'une famille paysanne lui-même. Il est en Bretagne et c'est un bouquin qui est shortlisté pour le prix Albert Londres. Et s'il l'a, ça sera un gros pavé dans la mare de l'agro-business en Bretagne, puisque son bouquin porte sur l'agro-business en Bretagne et l'omerta qu'il y a autour. Les violences, les menaces, les sabotages, l'intimidation, le surendettement, les suicides, etc. Et il fait vraiment l'histoire de l'agro-business pour qu'on comprenne d'où ça vient. C'est évidemment pas récent. Donc en France, on a une méconnaissance de ces mécanismes-là. On sait pas, on connaît l'acronyme la PAC, la politique agricole commune, mais on sait pas comment ça fonctionne. Et moi, j'avais pas non plus idée de vraiment comment ça fonctionnait avant de faire la charge pour écrire mon livre. Et c'est pour ça que je consacre un chapitre à la PAC, où on découvre avec horreur et avec beaucoup de colère et de révolte que les subventions, donc la PAC, c'est le plus gros système de subventions au monde, et c'est en Europe, créé depuis la Seconde Guerre mondiale. Et on découvre que, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Cour des comptes, que c'est un système de subventions inefficace et qui est même nuisible. C'est-à-dire que ce système-là, il ne profite... C'est donc plus vous avez d'hectares, plus vous avez d'argent, hein, pour le dire de façon assez...
Pour ceux
que
ça intéresse, on a fait un épisode sur la PAC que vous pouvez écouter.
Bah écoutez-le, voilà, vous apprendrez encore plus que ce que je vais pouvoir dire en trois phrases. Donc, prime à l'hectare, plus c'est grand, plus vous avez d'argent, et plus vous mécanisez, plus vous avez d'argent. Et en gros, moins vous êtes vertueux en termes d'écologie ou d'agriculture, plus vous avez d'argent. Donc, c'est inefficace. 80% des subventions vont à 20% des agriculteurs. On ne subventionne pas le maraîchage comme on subventionne les céréales ou le lait, par exemple. Donc, on a un vrai problème de structure et de à qui on donne de l'argent pour se développer. Aujourd'hui, 70% des fruits et 30% des légumes consommés en France sont importés. Et ça, ce chiffre, j'y croyais pas quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est pas possible. 70% des fruits qu'on consomme en France sont importés. Et c'est pas parce qu'on exporterait tout le reste pour se faire de l'argent, non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, on ne subventionne pas assez, on n'aide pas à l'installation, à la reprise d'exploitation, on n'aide pas. Dans 10 ans, on va perdre la moitié des agriculteurs, agricultrices en France. Pour l'instant, on ne sait pas comment on va les remplacer. Parce qu'en fait, ça coûte trop cher de reprendre une exploitation. Ça coûte cher de s'installer aussi. Mais c'est des gens qui savent très bien ce qui va se passer quand ils vont s'y mettre, en fait. C'est pas du tout... Aujourd'hui, personne n'a envie de reprendre ça, de faire ce métier. Enfin, ou plein de gens ont envie, mais les conditions matérielles font que beaucoup y renoncent, quoi. On a beaucoup de jeunes qui aimeraient le faire. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent, on le voit bien, hein, en maraîchage, en viticulture aussi, qui ont des petites parcelles, qui font du vin nature, qui font de la bio, etc. Et c'est des gens qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de le faire ou de rester et qui peuvent pas résister au gigantisme parce que justement, comme je disais, plus on a d'hectares, plus on a de thunes. Donc, c'est une incitation à faire des méga fermes, des méga exploitations, etc. Donc, on a une méconnaissance du mécanisme des prix. Donc aujourd'hui, quand on parle de la bio, on a des débats assez binaires qui en plus reposent sur rien. Par exemple, on a des gens qui vont continuer à nous faire croire qu'on ne peut pas nourrir tout le monde avec la bio alors qu'on a des rapports qui montrent que bien sûr que si, on pourrait le faire, mais que évidemment, c'est pas en claquant des doigts que ça va se passer, c'est pas une transition qui va prendre 6 mois, ça prend énormément de temps, mais en fait, on fait que parler et on ne fait pas cette transition-là. Donc, il y a un manque de volonté politique, évident sur cette fausse transition qu'ils appellent de leur vœu et ils nous en parlent sans arrêt, transition écologique, mais ils ne font absolument rien pour. Et c'est terrifiant. Donc, évidemment, aujourd'hui, tout ce qui est bio ou tout ce qui a des labels, par exemple éthiques, ben, quand on ouvre le frigo de quelqu'un ou le placard et qu'il y a ces labels-là, on sait très bien de quel milieu social ils viennent plutôt. En tout cas, quels sont leurs revenus. Par exemple, je ne dis pas que c'est un moyen infaillible de savoir si quelqu'un a de l'argent ou pas, que d'avoir ça. Mais effectivement, aujourd'hui, la bio, on voit les paniers sont plus... Alors, au début, ils ont un peu accusé l'inflation. C'est-à-dire qu'au début, c'est intéressant d'ailleurs de voir que les fruits et légumes bio n'ont pas augmenté autant que les fruits et légumes conventionnels hein, au début de l'inflation, puis au fur et à mesure. Et puis après, bah oui, évidemment, ça a dépassé ça. Mais au début, c'était drôle parce que je me suis dit, ah tiens, ça devient aussi cher que la bio. Donc, à quelques centimes près, on pourrait se payer de la bio, en fait. Mais le problème est dans quel sens le prendre, quoi. Donc, on peut pas enjoindre des gens à manger mieux si on leur donne pas les moyens de le faire. Donc moi, faire reposer la culpabilité ou la responsabilité sur des individus, pour moi, c'est indécent et c'est grotesque et c'est un moyen très facile de ne pas prendre justement des engagements politiques forts et concrets qui font que tout le monde pourrait demain manger des légumes et des fruits. Je rappelle un chiffre du baromètre socio-populaire de septembre 2023. La moitié des Français et Françaises n'ont pas les moyens de manger des fruits et légumes tous les jours.
Tu montres en effet à quel point, dans ton livre, à quel point notre système alimentaire est inégalitaire. Je m'intéresse au symbole de la bio particulièrement, parce que là, comme tu dis, avec l'inflation, en plus, ça s'est rapproché les prix du bio et du non-bio, puisque le bio a une inflation moins forte que le non-bio. Mais est-ce qu'il reste un symbole très fort pour toi dans les classes populaires qui font que, de toute façon, elles ne vont même pas se tourner vers le bio?
Non, c'est le prix.
Ok.
Genre que vraiment, toutes les études que moi j'ai lues, les rapports en France des gens qui travaillent sur ces sujets-là, notamment Nicole Darmon, la chercheuse que je cite beaucoup, qui justement, elle s'interroge sur les leviers à activer pour permettre aux classes populaires de se nourrir suffisamment et correctement. Les gens disent, argument numéro un, l'argent. Plein de gens disent, si j'avais plus d'argent, évidemment que j'achèterais plus de fruits et de légumes, j'achèterais du poisson. J'achèterais d'autres choses que ce dont je dois ce à quoi je dois me contraindre aujourd'hui, ce qui est à ma portée. Donc,
et quelles sont
même chez les classes dominantes, la bio, en fait, c'est vraiment culturel. C'est-à-dire que c'est pas forcément parce qu'on est riche ou qu'on est pauvre ou qu'on est une classe moyenne, parce qu'on m'a reproché de dire les riches et les pauvres. Et les gens au milieu, alors, je dis oui, bon, bah, lisez mon livre, hein, je suis plus nuancée que ça. Mais, la bio, il y a des fantasmes aussi. Et puis, il y a des gens qui y croient pas. C'est drôle. Et parmi toutes les classes, hein, y a des gens qui vont vous dire, oui, moi, la bio, hey, on va apprendre dans 5 ans, dans 10 ans, qu'en fait, blablabla, blablabla, bla, bla, puis les pesticides, on n'est pas mort, etc., etc., etc. Mais ça, c'est encore prendre ça par le petit bout de la consommation personnelle. C'est-à-dire que vous regardez, Monsanto, enfin, Bayer, vient d'être condamné à verser des centaines de millions de dollars à un homme qui vient de voir son cancer. Je crois que c'est une leucémie. On vient de valider le fait qu'il y a un lien avec les pesticides Monsanto et avec le Roundup, quoi. Donc, et ils sont encore en procès, Bayer. Donc, parler de la bio uniquement d'un point de vue de croyance, donc, qui est du complotisme, hein, parce que la bio, c'est pas une croyance, hein, la bio, c'est quand même c'est scientifique, hein, c'est un cahier des charges. C'est oublier qu'on a un enjeu systémique derrière qui est un enjeu de santé publique, qui ont un enjeu environnemental et de durabilité de la production. Donc la bio, c'est pas quelque chose qu'il faut percevoir d'un point de vue individuel de oui, c'est bon pour ma santé, c'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde et pour tout. Enfin, je veux dire, c'est il y a pas que la bio, évidemment. Là, on parle de la bio en particulier, mais il y a plein d'autres agriculteurs, agricultrices ou viticulteurs, viticultrices qui ne font pas de la bio, mais qui se mettent eux-mêmes des contraintes justement extrêmement contraignantes. Le vin nature, par exemple. Il n'y a pas de cahier des charges du vin nature, mais il y a des gens qui sont aussi contraints que la bio par ce qu'ils et elles décident de faire dans leur champ ou dans leur vigne. Donc, il faut voir ça aussi d'un point de vue systémique. Encore une fois, qu'est-ce que la bio apporte de plus à la terre, à nous, à notre manière de vivre, de consommer, d'être en bonne santé. On a des chiffres sur les épandages de pesticides près des écoles. Il y a encore des chiffres qui sont sortis il y a 15 jours, je crois. C'est pas qu'une question de je prends la salade bio ou pas dans mon supermarché, quoi. Et puis, la bio ne veut pas forcément dire aussi que tout a été vertueux de A à Z. Des multinationales, des grands groupes agroalimentaires qui font de la bio, ça ne les rend pas tout à coup exonérés de toute la merde qu'ils ont pu faire et continuent de faire un peu partout avec le reste des aliments. Donc, c'est comme la cosmétique bio, ça ne veut pas dire que tout est vertueux de A à Z. Donc, encore une fois, il ne faut pas le prendre comme un label d'honnêteté et d'infaillibilité à tout prix, mais il faut se dire que c'est moins pire que plein d'autres choses. Après, comme je dis souvent, mieux vaut manger des tomates pas bio que pas de tomates du tout.
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Puisque c'est un enjeu systémique, il faut que tout le monde ait accès au bio. Il faut manger bio, comme tu le dis. Il faut que ça soit en tout cas le modèle vers lequel on doit se tourner.
Pour moi, c'est pas « il faut manger bio », c'est déjà, il faudrait que tout le monde puisse choisir ce qu'il mange.
Ok.
Choisir, c'est-à-dire que ne pas avoir de contraintes financières en se disant, de toute façon, tout ce qui me reste, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les classes populaires, c'est une fois qu'on a tout payé, ce qui reste, c'est pour la bouffe.
Et du coup,
c'est l'inverse pour les classes dominantes.
Oui, comment on fait ça?
Comment on fait ça? En fait, on choisit politiquement de nourrir une population, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit alimentaire, il existe, il est inscrit. Sauf qu'il n'est pas opposable, contrairement au droit au logement. Le DALO, par exemple, en France, droit au logement opposable, vous pouvez faire une demande pour un logement en France. Bon, vous ne l'aurez pas dans les 6 mois, vous ne l'aurez même pas dans l'année, vous ne l'aurez pas dans les 3 ans. Bon, c'est compliqué, donc c'est très hypocrite. Le droit à l'alimentation, une alimentation suffisante, correcte et culturellement acceptable, c'est inscrit dans tous les pays. Sauf que...
Il me semble que ça a été reconnu par l'ONU, mais qu'en France, en tout cas, ce n'est pas un droit en tant que tel. Reconnu.
En fait, c'est que c'est un droit, mais c'est pas un droit. C'est-à-dire que c'est un droit, parce que ça fait joli sur le papier, puis on se dit qu'on est bien en écrivant comme ça, mais en fait, vous pouvez rien faire, vous. Vous allez pas faire un procès à l'État. Moi, j'adorerais qu'il y ait ça, comme il y a des procès contre les États, pour justement, par rapport à l'environnement. Il y a des procès aujourd'hui en cours. Moi, j'adorerais qu'on fasse un procès à l'État, qui ne nourrit pas les gens. Mais on pourrait faire un procès sur le logement aussi. Le problème, aujourd'hui, c'est que la faim, ça se voit pas. Pour moi, c'est ça le problème avec la faim. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on a décidé de mettre ça sous le tapis et que les politiques s'appuient sur l'aide alimentaire, c'est que la faim ne se voit pas. Donc on voit le mal logement tous les jours. Tout le monde voit le mal logement dans le monde entier. Mais si on parle rien que de la France, on le voit tous les jours. Moi, je sors, je croise des personnes qui vivent dans la rue. Bon, des gens de toutes les origines, de tous les âges, avec les enfants, sans enfants, etc. J'en vois tous les jours. Dans plein de villes, on les voit, ces gens. Mais les gens qui ont faim, ils ne sont pas dans la rue. En France, on ne meurt pas de faim aujourd'hui. Littéralement, on meurt. C'est pas la cause de la mort. La cause de la mort n'est pas la dénutrition, la malnutrition. Dans certains cas extrêmes, bien sûr. Dans des cas de maltraitance, on le sait. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des mécanismes qui font qu'on ne meurt pas de faim. Mais on ne la voit même pas à la faim. Quand on a des chiffres de,
on
de
la voit Croix-Rouge... Quand... Ouais, on la voit quand même au soupe populaire, ce genre de choses.
J'allais dire, en fait, le seul moment où on la voit, parce que l'aide alimentaire, elle est segmentée en plusieurs mécanismes, il y a donc la distribution alimentaire de repas chauds. Donc évidemment, là, on voit des gens. Mais cette aide-là n'est pas conditionnée aux ressources. Donc n'importe qui, toi, tu peux y aller, moi, je peux y aller. Évidemment, on ne va pas piquer ça à des gens qui n'ont pas les moyens de le faire, mais on pourrait y aller, tu vois. Mais en tout cas, oui, c'est ça le moment où on le voit. Et encore, il faut qu'elle aille dans la ville où tu vis, sinon tu ne vois jamais ça. Ou bien tu vois les gens qui font la queue au Resto du Cœur. Mais c'est le moment où tu vois la faim. Je veux dire, tu la vois pas comme tu vois les gens qui sont dans la rue et qui vont mourir parce qu'on meurt de vivre dans la rue aujourd'hui en France. Plusieurs fois par an, des centaines de fois. La faim, aujourd'hui, quand tu vois les chiffres des Restos du Cœur ou de la Croix-Rouge, etc., les Restos du Cœur disent qu'aujourd'hui, c'est 40% de leur population, c'est les étudiants et étudiantes. Bon. Quand tu vas dans une université, ça se voit pas. C'est-à-dire qu'il y a pas, les gens, tu peux pas deviner, lui a faim, elle a faim, lui mange à sa faim, elle non, elle. Bon. Si on voyait plus la faim, je pense qu'il y aurait un peu plus de volonté politique de la prendre en charge, puisqu'ils attendent qu'une chose, c'est quelqu'un leur mettre le nez dedans pour dire, hey, vous faites un truc là ou pas? En ce moment, avec tout ce qu'il y a autour des Restos du Cœur depuis la rentrée, notamment avec d'abord les Restos du Cœur qui disent qu'ils vont commencer, et ça y est, ils ont commencé à refuser des gens. Pour la première fois en 30 ans. Et avec le don de 10 millions d'euros de Bernard Arnault, on a commencé à parler des Restos du Cœur un peu plus et l'aide alimentaire. Bénédicte Bonzi, chercheuse, a écrit un bouquin qui s'appelle La France qui a faim, que je cite dans mon livre. Elle bosse depuis très longtemps, elle va en immersion dans les Restos du Cœur, etc. Elle a écrit un bouquin, je ne l'ai pas vu à la télé, je l'ai vu chez Blast, c'est tout. Je l'ai vu interviewer nulle part. Sur l'aide alimentaire, aujourd'hui, dans les médias mainstream, on n'interviewe pas les gens qui pourraient parler de la faim. La faim est un non-dit. La faim, on se cache derrière son petit doigt parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays où on parle de gastronomie et pas d'alimentation. Je trouve ça indécent de nous abreuver de portraits de chefs sans arrêt, d'avoir des critiques de restos partout, mais de ne pas avoir, parce que je ne dis pas qu'il faut enlever l'un, je dis mais de ne pas avoir une couverture médiatique sur l'alimentation. Et alors, si on en parle d'un point de vue et d'un mot qui est vu très péjorativement d'ailleurs, qui est la consommation. Souvent, on est conso. On dit un angle conso quand on bosse. Moi, je suis journaliste. On dit tu nous fais un angle conso. Mais comme si c'était quelque chose que je dois traiter rapidement, un truc conso. Voilà, un truc pratique, un truc utile. Les gens, ils lisent trois lignes et puis voilà quoi. Mais faisons des enquêtes. Pourquoi on n'en parle pas assez? Quand Bernard donne 10 millions d'euros à l'aide alimentaire, moi j'ai vu sur aucun plateau télé quelqu'un pour dénoncer le mécanisme, les problèmes de l'aide alimentaire. Est-ce que c'est l'aide alimentaire en vrai aujourd'hui? Tout le monde a dit oui, arrêtez de vous plaindre, vous aimez pas les riches, il a quand même donné 10 millions d'euros. Oui, enfin 10 millions d'euros, je sais plus à quoi ça correspond si, sur un SMIC, puis c'est genre un centime, un truc comme ça, même pas quoi. Bon bref, le mec est milliardaire, c'est quand même le plus riche du monde. Donc, ah oui, merci Bernard quoi, merci patron, comme dit le documentaire de François Ruffin. Mais enfin, la faim n'est jamais abordée. On n'en parle pas. On en parle, encore une fois, comme l'agriculture. C'est-à-dire qu'on voit juste, on a des reportages qui disent « Ah, les Restos du Cœur refusent des gens. » Voilà, c'est tout. C'est tout. Et on n'en parle que quand il y a l'inflation depuis 3 ans. Depuis combien d'années on n'avait pas entendu des reportages, des choses qui nous parlent justement de la difficulté de se nourrir? Il faut qu'il y ait une inflation ahurissante d'un coup, qui soit durable sur 3 ans pour qu'enfin on nous parle de gens qui ont faim, pour qu'on ait des enquêtes, pour qu'on ait des reportages, qu'on ait des portraits, qu'on se pose la question. Donc, c'est... Là, en fait, pour moi, c'est là, ça explose, là, ça y est. Bénédicte Bonzi, et je la cite dans le livre, elle dit que l'aide alimentaire, ça sert au maintien de la paix sociale. Et que sans aide alimentaire, les gens vont commencer à faire ce qu'on appelle les émeutes de la faim, qu'ont connu plusieurs pays dans les années 2007-2008. Des gens qui n'avaient plus aucun moyen de se nourrir, où l'inflation était telle que c'était même plus possible en fait de manger, et donc qui ont pillé, qui ont volé, qui sont devenus agressifs et violents, et je les comprends. Et là, les Restos du Cœur, ça y est. Il y a eu sur France Info, Raphaël Godet qui a fait un reportage dans une antenne des Restos du Cœur où il a suivi, donc une journée ou deux ou trois, je ne sais pas, mais en tout cas, il a suivi des bénévoles des Restos du Cœur qui doivent annoncer à des gens qu'ils doivent restreindre les critères d'attribution puisque, rappelons-le, l'aide alimentaire, elle est conditionnée aux revenus. Donc, elle exclut de ce fait des gens qui n'ont pas de revenus légaux, par exemple, légitimes ou les personnes sans papier, qui n'ont pas de revenus. Et donc, des gens qui doivent annoncer que, pour continuer à vivre les Restos du Cœur, ils ont dû restreindre les conditions d'attribution et que là, madame, monsieur, madame travaille pas, monsieur, un RSA, mais vous êtes à 60 euros au-dessus du seuil et que cette année, vous n'aurez pas le droit à à des colis ou à une banque alimentaire. Et ça, c'est que le début. Et là, je crois que la France n'est pas prête à ce qui va se passer. Là, on va vers une révolte populaire. On va vers des émeutes de la faim, c'est sûr. On peut plus, c'est plus possible.
Dans ton livre, tu nous parles aussi d'un élément important et intéressant par rapport à l'aide alimentaire qu'on avait déjà un peu décrypté dans un épisode qu'on a fait avec la Chorba dans ce podcast ou sur la démocratie alimentaire, que je vous invite à écouter. C'est le fait que l'aide alimentaire, elle nourrit aussi tout un système et notamment elle nourrit le gaspillage alimentaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ça?
En fait, l'aide alimentaire, son gaspillage, elle n'existe pas puisque l'aide alimentaire se nourrit, sans mauvais jeu de mots, mais des invendus de la grande distribution. Depuis la loi Garot de 2016, la grande distribution qui, on l'a vu autrefois, javelisait ses invendus dans les poubelles pour que personne ne les récupère, est obligée de donner ses invendus à de l'aide alimentaire. Un invendu, c'est quoi par exemple? C'est des yaourts dont la DLUO est dépassée, donc qui sont encore propres à la consommation, ou bien des fruits et des légumes, etc., qui ne sont pas complètement moisis ou dégueulasses ou pourris. Plein de choses. L'aide alimentaire, c'est aussi les dons des particuliers. Vous voyez, quand vous allez au supermarché, souvent il y a des opérations où vous pouvez acheter, vous avez souvent une liste, on vous dit on a plutôt besoin de ci, ça, ça, ça et ça, et vous pouvez donner aux bénévoles, il y a un caddie qui est mis, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez faire des dons aussi en nature, qui sont défiscalisés, vous pouvez donner au Resto du Cœur par exemple, vous pouvez donner à plein d'autres banques alimentaires. Mais en tout cas, le gros vient des invendus de la grande distribution qui, je le rappelle, sont légalement tenus de donner leurs invendus et de ne pas les jeter. Jeter des invendus, ça coûte cher. Voilà, ils ne vont pas être à la benne et puis basta, quoi. Le fait de les donner, la responsabilité du tri, etc., de les valoriser, incombe aux bénévoles de l'aide alimentaire. Quand ces entreprises, qui sont légalement obligées de donner leurs invendus, le font, elles sont défiscalisées. C'est-à-dire qu'on leur donne de l'argent pour suivre et obéir à la loi. Alors, j'aimerais bien comprendre déjà ça. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi on a décidé que pour obéir à la loi, on allait donner de l'argent à des entreprises. Moi, personne ne me donne d'argent pour obéir à la loi et je la respecte, la loi. Bon. Et je la respecterais pas plus si on me donnait du pognon, en fait. Parce que sinon, j'aurais des problèmes. Rapport que ça s'appelle la loi, pas pour rien. Donc, on leur donne de l'argent. Aujourd'hui, en France, sur les plus de 400 millions d'euros dédiés à l'aide alimentaire, les trois quarts, c'est de la défiscalisation. C'est des crédits d'impôts. Vous payez moins d'impôts, donc vous gagnez de l'argent, quand vous respectez la loi en donnant les invendus. Et ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font, ces entreprises, en plus de ça? On leur donne de l'argent pour suivre la loi. Et en plus, elles vont souvent donner des tonnes de choses qui sont impropres à la consommation aux banques alimentaires. Les banques alimentaires, c'est donc des bénévoles, qui les font tourner, qui vont dire, mettons, à Franprix, à Auchan, à j'en sais rien, à Monoprix, ah oui, mais excusez-moi, là, vous nous avez donné plein de trucs, c'est plus mangeable, ça, enfin, vous avez vu la gueule des courgettes, vous avez vu la gueule du truc, les yaourts, ils sont défoncés. Alors, que fait la grande distribution? Elle leur dit, ah, vous êtes pas contents? Non, parce qu'on doit trier, vous vous rendez pas compte, on doit trier des choses, parce que vous devriez nous donner que des choses qui sont encore propres à la consommation. Vous devez faire un tri, vous, avant. Ah, vous êtes pas contents? En fait, on vous donnera plus. Si vous donnez plus à une antenne, les gens qui en bénéficient, ils font comment? Ils mangent plus. On va remonter un peu plus haut. Pourquoi il y a des invendus? Parce qu'il y a une surproduction. Pourquoi il y a une surproduction? Parce qu'en France, aujourd'hui, il faut de l'aide alimentaire. Donc il faut des invendus, donc il faut une surproduction. Tu vois le cercle vicieux. Aujourd'hui, s'il n'y a plus de surproduction, il n'y a plus d'invendus, il n'y a plus d'aide alimentaire.
Mais du coup, c'est quoi la solution? Est-ce que c'est d'arrêter l'aide alimentaire? Est-ce que c'est de développer d'autres services, et si oui, lesquels?
Arrêter l'aide alimentaire, ça fait qu'on a entre 2 et 5 millions de personnes qui vont mourir de faim. C'est-à-dire que là, littéralement, on va concerner des gens qui meurent de faim en France. Évidemment que non. Mais c'est un pansement sur une jambe de bois. C'est pas une mesure structurelle. Alors déjà, si on veut une mesure très démago, mais je vais le dire quand même, on augmente les salaires. C'est-à-dire que si les gens ont les moyens de manger, ils vont acheter à manger quand même. Plutôt d'aide alimentaire. Ce serait pas mal déjà. Aujourd'hui, on fait quoi? On baisse les aides, parce que l'aide alimentaire est une aide sociale, comme le RSA est une aide sociale, comme les allocs, etc. Donc aujourd'hui, on conditionne le RSA à du travail. Pourquoi pas? Pourquoi surtout? L'aide alimentaire, bientôt, il va falloir justifier encore plus, je pense, de pouvoir bénéficier. Mais comme les Restos du Cœur, pour pouvoir nourrir le maximum de gens, ont dû restreindre les conditions d'accès. En fait, à travers le livre, j'espère montrer que qu'il y a un autre moyen de faire. Moi, je donne pas de solution, je montre ce que des gens font déjà. Parce que quand on me parle de solution, j'ai l'impression que c'est abstrait et que c'est oui, on pourrait faire ça. Par exemple, la sécurité sociale de l'alimentation, la SSA, elle est expérimentée dans plein d'endroits en France. Ça fait des années et ça commence à être médiatisé de façon un peu plus mainstream, on va dire, depuis quelque temps. À Montpellier, assez récemment, par exemple. Le principe de la SSA, c'est d'avoir une carte comme une carte vitale, voire sur la carte vitale, tout le monde cotise, donc tout le monde cotise comme pour la Sécu, tout le monde cotise et tout le monde a un pécule à dépenser chaque mois uniquement pour l'alimentaire. Mais on va pas aller fliquer ce que vous achetez, comme on le fait aux États-Unis justement avec les coupons alimentaires où des sénateurs républicains pour la plupart disent « Ah oui, mais les pauvres, ils achètent du coca avec, alors on va leur interdire d'acheter ça, puis on va leur dire quoi acheter. » Ah bah oui, c'est très bien, on va encore infantiliser les populations précaires. Donc les gens achètent et achètent évidemment dans des endroits, parce que sinon ce serait encore une mesure qui serait uniquement individuelle ou qui serait pas assez systémique. On achèterait, on pourrait dépenser cet argent dans des endroits qui sont achalandés avec des produits qui sont produits de manière vertueuse et de manière rémunératrice pour les gens qui les font. Donc on ne va pas aller dépenser cet argent-là dans des endroits qui font que ce système alimentaire tourne, pas à vide, mais tourne à plein dans les poches de certains et laisse les estomacs vides. Mais on va décider collectivement qui nous nourrit et comment on nous nourrit. Des gens ne vont pas décider pour moi ce que je mange, ce n'est pas le but. Mais c'est d'avoir des endroits accessibles, parce qu'évidemment, c'est encore une contrainte, hein, l'accessibilité géographique, accessibles où on décide. Donc, c'est une démocratie alimentaire. C'est décider de reprendre en main tout ce système-là qui, sur lequel, nous, on n'a pas prise. Enfin, je veux dire, là, on n'a pas le choix. Alors oui, on a le choix, on pourrait aller dans une AMAP. Encore, on avait un agriculteur d'AMAP qui s'est suicidé assez récemment. Donc, c'est pas parce qu'il est dans une AMAP que tout allait bien dans sa vie, hein. Mais ce n'est pas forcément un choix. Il faut avoir une après chez soi, il faut pouvoir payer ça, etc. Il faut pouvoir cuisiner des légumes tous les jours, pas que ça se perde. Bon, bref. Donc, c'est reprendre la main sur ça. C'est avoir une agentivité qu'on nous a retirée et arrêter et que les politiques arrêtent de continuer à nous faire croire qu'on n'est pas assez intelligent pour savoir ce qui est bon pour nous et ce qui est possible à faire dans le monde. Et on voit bien que plein d'initiatives sont possibles, que ça fonctionne. Donc pourquoi ne pas tenter à plus grande échelle de le mettre en place ? Et moi, je pense que... Et à la fois, je suis optimiste là-dessus, mais pour moi, c'est une faillite sociétale. Je m'explique. Pour moi, l'avenir, le futur désirable et souhaitable, il va se construire de manière locale, voire hyper locale. Et je trouve ça super, mais je trouve ça atroce d'un point de vue. Pour moi, c'est un échec de la société que de devoir se dire qu'il n'y a qu'au niveau local qu'on peut faire des choses. Et pourquoi au niveau national, on ne peut pas, ou même au niveau régional, on ne peut pas. Mais on voit qu'au niveau local, plein d'initiatives comme la SSA fonctionnent et que des gens peuvent enfin manger des légumes tous les jours et peuvent enfin se sentir faire partie de la société. Et je reboucle avec ce dont je parlais tout à l'heure, du plaisir. En fait, la consommation aujourd'hui permet de se sentir pleinement citoyen, citoyenne, de faire pleinement partie d'une société dans laquelle on dit, pour exister, il faut consommer. Il faut consommer comme tout le monde. C'est pour ça que je parlais des Kinder, du Nutella, donc on parle beaucoup de Ferrero, mais bon, mais ou de Milka, de Lindt, je ne sais quoi, du chocolat, des choses qu'on trouve en supermarché qui sont plutôt accessibles. C'est qu'en mangeant ça, on se dit « moi, je peux faire comme les autres, en fait. Je peux manger comme tout le monde. » Quand vous avez des injonctions à la télé qui sont « mangez 5 fruits et légumes par jour » et que vous n'avez pas les moyens d'y répondre positivement, parce que vous n'avez pas les moyens de manger 5 fruits et légumes par jour, ben vous vous sentez quoi ? Vous vous sentez coupable ? Vous vous sentez ne pas faire partie, ne pas être, je ne sais pas, un bon citoyen, j'en sais rien, ou un bon parent peut-être, ou un bon aidant. Et quand vous pouvez avoir accès à ces fruits et ces légumes, vous savez que vous faites du bien à votre cœur, vous n'êtes pas débile, évidemment, les pauvres ne sont pas complètement ignorants de ce qui est bon ou pas bon, ça faut arrêter aussi d'infantiliser, d'avoir une présomption d'ignorance sur les populations précaires. Mais vous pouvez enfin avoir accès, et surtout vous avez le choix, parce que l'aide alimentaire, ce n'est pas avoir le choix de ce qu'on mange. Et ça, c'est une violence alimentaire, pour reprendre l'expression de Bénédicte Bondy, c'est une violence alimentaire que de ne pas avoir le choix de ce qu'on mange. Moi, je dis aux gens, pareil, comme je leur dis, allez tester une semaine à l'hôtel social pour voir si vous allez réussir à faire à manger comme vous faites la leçon à tout le monde. Et puis, passez une semaine à ne vous nourrir que de ce que l'aide alimentaire vous donne, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont dépendants à 100% de l'aide alimentaire, alors qu'il y a des gens pour qui c'était une solution ponctuelle, souvent. Allez vous nourrir avec des colis alimentaires. Vous n'avez pas choisi, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, vous n'aimez pas, ou vous ne savez pas quoi faire avec. Vous nourrir de choses que vous n'aimez pas, c'est une violence.
Tu finis ton livre par « Mangeons les riches ». Qu'est-ce que ça signifie ?
Ça signifie renverser un système où les plus riches se gavent sur le dos des autres et où la nature est vue comme une ressource pure. On ne voit ça que comme une ressource. Et où on voit la nature comme une ressource, tout comme le capitalisme voit les êtres humains comme des ressources à exploiter pour créer de la richesse que eux seuls vont toucher. Manger les riches, c'est se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont toujours aussi privilégiés, qui n'entendent pas remettre en question leurs privilèges, qui leur semblent naturels. Il y a encore ça. Il y a encore l'idée que si on est riche ou qu'on est une classe moyenne supérieure, c'est qu'on l'a mérité. Et que les gens qui sont dans une situation très précaire, c'est qu'ils l'ont mérité aussi et qu'ils font rien pour s'en sortir. Donc cette présomption de naturalité, d'un état, de fait, il y a oh bah oui, il y aura tout. On m'a déjà dit mais il y aura toujours des riches, il y aura toujours des pauvres. Ben non, j'espère que non. Enfin j'espère qu'il y aura que justement ça c'est ce pour quoi on se bat. J'espère qu'il y aura pas de qu'un jour on n'aura plus de d'inégalité aussi démente. Et surtout j'aimerais qu'on se rende compte de ce que représente la faim aujourd'hui en France, et de ce que représentent les monopoles que je décris dans le livre, parce que autant on n'est pas du tout au fait des subventions, on n'est pas au fait de la structure des prix, mais on n'est pas au fait de ce dont je parle dans le premier chapitre, qui est un peu plus aride, mais qui est sur l'économie, du monopole, par exemple. Bah oui, moi j'ai appris en écrivant le livre qu'il y avait 4 multinationales qui avaient un monopole de céréales dans le monde. Sur les semences, c'est pareil. On a quelques entreprises qui détiennent plus de la moitié du marché des semences et qui maintiennent dans une situation de dépendance les agriculteurs et agricultrices. Donc il y a ça aussi.
La plus connue étant Bayer Monsanto.
Comment ?
La plus connue étant Bayer Monsanto.
Étant Bayer, évidemment. Et on a aussi une entreprise française dans le l'Imagrain, dans le top. Donc en fait, j'avais envie qu'on... Pour moi, à travers ce livre, encore une fois, il y a quelque chose de l'ordre, oui, de la réappropriation de notre système alimentaire, de notre alimentation à travers la connaissance et le savoir, et de démocratie alimentaire, parce que bah, savoir, c'est pouvoir. Hein. Pardon, j'enfonce une porte ouverte. Enfin, je dis un truc très... Voilà. Mais les gens qui ont lu le bouquin et qui m'en parlent depuis un mois et demi qu'il est sorti, tous les gens que j'ai vus me disent « mais je ne savais pas, j'avais aucune idée, en fait, des trois quarts de ce que tu racontes dans le livre, je savais pas ». Et c'est pas normal de pas savoir. Tout le monde mange. On fait 2-3 repas par jour ou un. Mais en tout cas, on mange. C'est une obsession parce qu'il faut manger pour vivre. Certains vivent pour manger et ils ont de la chance. Ceux qui mangent pour vivre sont bien au courant des violences alimentaires. Et ouais, encore une fois, moi, je peux plus entendre la phrase « ça coûte pas si cher de bien manger ».
Qu'est-ce que tu penses de la mesure dont on discute en ce moment qui va conduire à ce que dès janvier 2024, la réglementation des tickets restaurants va évoluer et que désormais, seuls les plats cuisinés pourront être achetés au supermarché et non plus les produits de base?
Bah, c'est comme je disais tout à l'heure sur les coupons alimentaires américains, c'est une présomption d'incompétence et d'ignorance de la part des populations précaires. Et puis, je trouve ça assez étrange parce que le principe du ticket resto, c'était quand même qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec, non? Enfin, il me semble qu'en fait, on est libre de ses choix et que ça va dans le même sens que tout ce qu'on voit actuellement de restrictions dans les aides sociales, de les conditionner à des heures de travail, à d'autres choses. Donc, on va vers ça, a priori. On va vers une police de l'aide sociale. Des gens qui vont vous faire croire que ce sont tous des fraudeurs alors que les évadés fiscales rapporteraient plus à l'État, je pense, en 3 mois qu'en 10 ans de soi-disant fraude à la sécu ou je ne sais quoi. Non, sur les tickets resto, j'ai du mal à comprendre comment on peut justifier sérieusement cette mesure. Parce que quand vous allez au supermarché et que vous allez acheter des courses avec vos tickets, déjà, de toute façon, ça a toujours été restreint en termes de montant. Hein. On n'a jamais pu dépenser 400 euros de tickets pour aller aux courses. Donc déjà, ce que je trouve pas normal non plus. Mais un plat préparé, souvent, c'est des plats individuels, d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas beaucoup de plats préparés qui sont familiaux. Ça encourage une certaine agriculture. ça encourage une certaine économie des multinationales. On sait très bien qui va se gaver dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'un côté, nous faire des publicités et des grands discours au Salon de l'agriculture en disant la ferme France, valoriser l'agriculture française, la bio, puis regarder la nouvelle PAC, et puis on est fiers de nos agriculteurs, et puis manger des salades françaises, arrêter d'acheter des trucs importés, blabla, manger de saison, manger local, manger machin. Et d'un autre côté, dire aux gens, vous ne pourrez acheter que des plats cuisinés avec vos tickets resto, enfin, qu'est-ce qui se passe ? Encore une fois, c'est une volonté politique de donner de l'argent à des gens qui ont déjà énormément, les grands groupes agroalimentaires qui sont déjà ravis depuis très longtemps, puisque toutes les mesures, le seul moment où ils ne sont pas ravis, c'est quand il y a le Nutri-Score. Ah bah là, il faut rendre des comptes, donc ça y est, on n'est pas content. Le Nutri-Score, ça... Mais c'est pareil, ça, j'en parle vraiment très 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 brièvement dans le bouquin du Nutri-Score, mais ça c'est pareil, c'est une mesure... Alors, pour tout imparfaite qu'on puisse la trouver, c'est une mesure que moi je trouve extraordinaire et exceptionnelle pour moi. C'est une révolution du Nutri-Score parce que ça donne de l'agentivité aux gens, ça donne la possibilité aux gens de comparer des choses qui étaient autrefois plus difficilement comparables, les aliments entre eux. Et ça a bien fait chier l'agroalimentaire et ça me fait très plaisir parce qu'ils se sont rendus compte que on pouvait boycotter des marques parce que le Nutri-Score était eux et qu'ils allaient avoir des pertes. En termes de vente, et on le sait, je cite un rapport dans mon livre, qui est que afficher le Nutri-Score, ça fait augmenter les ventes des produits qu'il affiche. Donc, même si le Nutri-Score n'est pas terrible, mais en fait, vous avez une transparence, et le consommateur, la consommatrice trouve ça bien, et il est où elle a raison. Ça ne veut pas dire que le produit est bon pour la santé, encore une fois, c'est pas ce que le Nutri-Score avance, mais on voit bien qui ça fait chier Ferrero, en Italie, qui est une des plus grosses entreprises italiennes dans l'agroalimentaire et tout court, et qui se bat contre le Nutri-Score depuis des années, qui ne veut absolument pas l'afficher sur ses produits en Italie, et qui rameute dans son lobbying d'autres entreprises qui refusent de le faire. Le Nutri-Score, je trouve que c'est une victoire en termes d'alimentation, de démocratie alimentaire, d'agentivité. C'est un premier pas. Mais quand on voit que ça fait chier l'agroalimentaire d'afficher l'origine de la viande ou des produits dans les plats préparés, par exemple, on se demande bien pourquoi. Non, on se demande pas pourquoi, en fait. On sait bien que la transparence, c'est pas ce qui les étouffe, quoi.
On arrive à la fin de ce podcast et je vais te poser trois dernières questions. La première, c'est quelles mesures tu souhaiterais souffler au gouvernement pour rendre justement plus accessible à toutes les catégories sociales une alimentation saine et durable ?
Subventionner les fruits et les légumes. Mais surtout, on subventionne, mais il faut augmenter les salaires. Augmenter les salaires.
Okay.
Augmenter les minima sociaux, augmenter les salaires. Et limiter les salaires des plus riches.
Une transformation de la PAC ?
Une vraie, parce que la nouvelle PAC, c'est une blague. Non, mais je pense que ça passe vraiment déjà par l'argent qu'on a dans notre compte en banque. Enfin, on ne peut pas continuer à dire à des gens de manger des fruits et légumes et de leur donner un RSA, en fait. C'est pas possible. Donc, c'est pareil, on ne peut pas faire une seule mesure. Il faut qu'il y ait des lieux. Enfin, tout s'active en même temps, quoi. On ne peut pas subventionner quelque chose sans augmenter les salaires de l'autre et inversement.
C'est quoi tes projets à venir, Nora ?
J'écris un quatrième livre.
Ah !
Ouais, sur la bouffe toujours, mais je ne peux pas en dire plus. Puis, j'ai toujours plein de projets. Mais voilà, des choses plus ou moins avancées. Mais oui, il y a un quatrième livre.
Pour quand ?
Pour dans longtemps.
Ok.
Pour 2025.
Est-ce que tu aurais un conseil de lecture de films de reportage à donner à tous ceux qui nous écoutent ?
Eh bien, Silence dans les champs, que j'ai cité tout à l'heure, donc de Nicolas Legendre, qui a enquêté pendant plusieurs années sur l'agro-industrie en Bretagne, que j'espère avoir gagné le prix Albert Londres, qui est très bien écrit, qui est un livre qui se lit très facilement, qui est pour les gens qui ne lisent pas d'enquête ou qui n'en ont jamais lu, ne vous sentez pas bête ou désemparé, parce que vous dites une enquête ça va être compliqué, je vais rien comprendre. Non, justement il fait tout l'historique, c'est très fluide à lire. Les témoignages sont très bien intégrés dedans parce qu'il a des témoignages. Il a des témoignages de gens concernés, donc d'agriculteurs et agricultrices, mais il a aussi des comptables, il a des gens qui bossent dans des banques parce qu'on parle d'endettement par exemple, il a des élus. Donc il y a des gens anonymes ou pas, et c'est une manière de voir à quel point le système est violent, à quel point il y a une omerta, le mot est lâché, une mafia, il en parle dans le livre, à quel point notre système alimentaire dans une région comme la Bretagne est gangréné par les intérêts financiers avant tout, au détriment des gens qui nous nourrissent.
Merci beaucoup Nora.
Merci.
Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill décotable.
Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.ecotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt.
Écotable. Écotable.